Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. L'événement ce soir sur France Culture, l'interview d'Hassan Rohani. À l'occasion de sa visite en France, le président iranien a accordé un entretien à Ludovic Piétenu. Arabie Saoudite, conflit syrien, droits de l'homme, voilà les principaux thèmes abordés. Les premiers extraits de l'interview dans un instant. Le virus Zika se propage de manière explosive, affirme l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie frappe désormais 23 pays sur le continent américain. Le Brésil est le plus touché. Les explications de Catherine Dutu dans ce journal. Alain Finkielkraut, sous la coupole, le philosophe et producteur sur France Culture, a été officiellement reçu à l'Académie française. Finkielkraut, ému qu'un juif d'origine polonaise entre à l'Académie, le reportage de Jacqueline Pétrose. C'est donc une journée historique dans les relations franco-iraniennes. La visite du président Hassan Rouhani à Paris, qui marque le retour en grâce de l'Iran sur la scène internationale. Conséquence, bien sûr, de l'accord sur le nucléaire iranien conclu l'été dernier. L'occasion pour les entreprises françaises de décrocher plusieurs contrats. Airbus, PSA, Bouygues, Vinci, Aéroports de Paris. Autant de sociétés qui vont revenir sur le marché iranien. Et puis, il y a l'aspect diplomatique de cette visite. L'Iran peut jouer un rôle décisif dans la lutte contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Mais Téhéran est aussi en conflit ouvert avec l'Arabie Saoudite, allié traditionnel de la France dans la région. Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Alors après avoir rencontré François Hollande, le président iranien Rouhani vous a accordé un long entretien de 35 minutes.
Oui, comme à son habitude, le président Rouhani est apparu très calme, posé, tempéré, avec cette longue barbe grise. Son propos est très contrôlé. C'est un animal politique habitué à la scène intérieure iranienne où seul s'en sort celui qui sait composer. Alors il faut l'écouter, il faut lire parfois entre les lignes, mais ses critiques les plus claires, ce soir, il les a formulées à l'encontre de l'autre puissance régionale, l'Arabie Saoudite, avec qui les relations sont très tendues, les relations diplomatiques sont même suspendues depuis un mois. La question qui lui était posée visait à savoir si les États-Unis n'avaient pas finalement délaissé l'Arabie Saoudite au profit de l'Iran. Écoutez Hassan Rouhani.
C'est un fait important. L'influence de l'Iran dans la région et les démarches iraniennes entreprises en faveur de la région attestent cet intérêt américain. Et les élections qui se déroulent en Iran, la démocratie qui existe en Iran, nous avons procédé à des élections de façon régulière et nous n'avons jamais tardé à mettre en place des élections. Alors que les pays qui nous entourent ont très rarement procédé à des élections démocratiques. Il y a une grande différence entre l'Iran et les autres pays voisins.
Et Hassan Rouhani tape encore, il insiste sur l'Arabie Saoudite en évoquant, sans jamais les nommer, Al-Qaïda et la pensée wahhabite.
Cette pensée de la violence, d'où vient-elle? Quelles sont ses racines? Le premier groupe qui a procédé à ces actions terroristes avait quelle nationalité? Je pense qu'il n'est pas très difficile d'aller au fond des choses.
Et puis Ludovic, autre dossier important dans la région que vous avez évoqué, la Syrie.
Presque 5 ans de guerre et des négociations de paix qui tardent à s'ouvrir. On verra ça dès demain à Genève et évidemment dans les jours, les semaines qui viennent. Le président iranien Hassan Rouhani, en tout cas ce soir, semblait très pessimiste.
Évidemment, c'est notre souhait, c'est notre espoir que de voir ces négociations aboutir le plus rapidement possible, mais cela m'étonnerait que ces négociations puissent aboutir très tôt, en l'espace de quelques semaines, de quelques réunions. Il y a beaucoup de choses à faire, mais d'ores et déjà, c'est le cessez-le-feu qui doit attirer toute notre attention.
Alors, Ludovic, l'Iran redevient fréquentable sur la scène diplomatique, on l'a dit, et pourtant le pays n'est pas vraiment exemplaire en matière des droits de l'homme. Vous en avez parlé avec le président Rouhani.
Oui, je l'ai interrogé sur l'exécution de mineurs, sur la répression du délit d'opinion, des journalistes, en bref, avec mes confrères de France 24 et du Monde, Marc Perlman et Christophe Ayad. Nous l'avons interrogé sur ses promesses de campagne faites il y a 2 ans et demi en matière de liberté individuelle. Voici sa réponse.
Le peuple sait parfaitement les limites du gouvernement. S'agissant de la fonction du pouvoir judiciaire, qui est un pouvoir indépendant, mais aussi le pouvoir législatif, qui est lui-même également indépendant. Il se peut qu'entre les trois pouvoirs, il n'existe pas une identité de vue. Et sur un dossier, il se peut que j'ai ma propre opinion, mais ce qui est essentiel, c'est que nous respections le verdict des tribunaux. Et j'espère que dans le temps qui me reste, j'arriverai à honorer le reste de mes promesses.
Nous l'avons aussi interrogé sur le maintien en résidence surveillée depuis maintenant 5 ans de 2 anciens candidats à la présidentielle, Moussavi et Karoubi, 2 figures de ce mouvement vert de 2009. Eh bien, le président iranien Hassan Rouhani, dans sa réponse, ne les citera jamais.
Merci Ludovic Piétenu. Dès ce soir, vous pourrez retrouver votre interview d'Hassan Rouhani sur notre site franceculture.fr. Et demain, l'entretien sera diffusé en longueur dans les matins de France Culture entre 7h35 et 8h. Guillaume Erner et son invité, le chercheur Bernard Ourcade, décrypteront les propos d'Hassan Rouhani. Alors, vous évoquiez la question des droits de l'homme, Ludovic. Eh bien, plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris pour dénoncer la visite en France d'Hassan Rouhani. Le régime iranien a accusé de multiplier les exécutions capitales et de museler son opposition démocratique. Environ 800 personnes avaient répondu à l'appel du Conseil national de la résistance iranienne, où l'on trouve notamment les Moudjahidines du peuple, une organisation basée en région parisienne. Le reportage d'Anne Patinec.
C'est quasiment un show à l'américaine que les opposants à Hassan Rouhani ont organisé place d'Enfer Rochereau. Sono ultra-puissante, écran géant. Sur une remorque, plusieurs personnes, une corde autour du cou, symbolisent les exécutions qui se poursuivent en Iran. Paria Kondel n'a que 18 ans. Elle a fui son pays il y a quelques mois. Son père est prisonnier politique depuis plus de 10 ans. Et la jeune femme a du mal à accepter la visite de Rouhani en France. Quand j'ai entendu ça, j'étais choquée. Parce qu'en Iran, l'image de la France, c'était celle d'un pays démocratique. L'Iran a exécuté plus de 2000 personnes. Rouhani est celui qui les a fait exécuter. Et ici, ils reçoivent ce mot-là. Selon les manifestants, au moins 52 personnes ont été exécutées en Iran depuis le début 2016. Simine Nouri vit à Paris depuis plus de 40 ans. Elle se dit indignée que son pays d'adoption fasse autant d'honneur à un président qui viole régulièrement les droits de l'homme.
Les contrats peuvent être signés autrement. Ce n'est pas la peine de recevoir un tel personnage qui exporte l'intégrisme islamiste au point de couvrir des milliers d'années d'art italien.
Plusieurs personnalités françaises ont aussi participé au rassemblement. L'avocat Henri Leclerc, l'ancienne secrétaire d'État Ramayad ou encore le député européen José Bové.
Anne Patinec, le président Rouhani doit quitter la France ce soir pour rejoindre Téhéran. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est ouvert ce matin à La Haye devant la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo, jugé pour crime contre l'humanité aux côtés de celui qui fut son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Les deux hommes doivent répondre de la répression sanglante qui avait suivi l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Ce matin, la procureure de la CPI a affirmé avoir des preuves de la culpabilité de l'ex-président. À l'extérieur du tribunal, les partisans de Laurent Gbagbo ont tenté de donner de la voix. Emmanuel Leclerc est notre envoyé spécial à La Haye.
La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a évoqué d'entrée un plan décidé par Laurent Gbagbo et ses proches pour tuer et réprimer massivement des populations du fait de leur appartenance ethnique ou religieuse.
Les groupes ethniques comme les Diola, généralement de confession musulmane, et les Ivoiriens, origine ouest-africaine comme le Mali et le Burkina Faso, ont tous été considérés comme des partisans de M. Ouattara. Leurs foyers et les marchés qu'ils fréquentaient ont été bombardés et leurs édifices religieux attaqués.
Une déclaration qui a provoqué la fureur des proches de l'ancien président ivoirien qui ont pu assister à l'audience derrière une immense paroi vitrée.
Aujourd'hui, on veut réintroduire en Côte d'Ivoire ce débat et on est en train d'essayer de mettre le feu au pays.
Si ces gens-là sont payés des millions pour ça, la communauté internationale gaspille son argent. C'est une honte. Ils mélangent les BT avec les Baoulés et les Diola. C'est pour ça que je parle de spéculation, on n'est plus dans le droit.
À l'extérieur de la Cour pénale internationale, plusieurs centaines d'Ivoiriens ont manifesté toute la journée pour clamer l'innocence des deux accusés. Ils seront encore là demain dans l'espoir cette fois d'une longue déclaration de Laurent Gbagbo devant ses juges.
Emmanuel Leclerc à la Cour pénale internationale. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'inquiète de la propagation explosive du virus Zika. Le nombre de cas augmente de manière exponentielle sur le continent américain, à tel point que l'OMS a convoqué pour lundi prochain une réunion d'urgence. Le virus Zika provoque de graves malformations congénitales. Les explications de Catherine Dutu.
23 pays déjà contaminés par le virus Zika sur le continent américain. Le Brésil, pays le plus touché, compte au moins 1,5 million de personnes infectées, au moins, car dans la majorité des cas, pas de symptômes visibles. Seules 2 à 3 personnes sur 10 ressentent de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, un peu comme pour une grippe. Mais c'est pour les femmes enceintes que le virus Zika semble le plus dangereux. Les explications du docteur Emmanuel Putois, directeur médical du service des vaccinations internationales de l'Institut Pasteur à Lille.
On craint que le virus soit responsable de malformations, notamment au niveau du cerveau. C'est ce qu'on appelle les microcéphalies. C'est en fait une diminution de la taille du cerveau par rapport à l'âge, avec des lésions cérébrales. C'est très grave puisque l'enfant va naître tout à fait anormal et son espérance de vie va être bien diminuée. Donc il peut y avoir beaucoup de morts-nés dus donc à cette maladie virale, notamment au Brésil.
Près de 4200 cas suspects de microcéphalie au Brésil contre 147 l'année précédente. Comme il n'y a pas de vaccin ni de traitement spécifique, le Brésil, la Colombie, le Salvador, l'Équateur et la Jamaïque recommandent désormais aux femmes de ne pas tomber enceinte. Le débat sur l'avortement et l'accès à la contraception en est relancé dans la région. Pour lutter contre la propagation du virus qui se fait uniquement par l'intermédiaire du moustique, l'OMS appelle à tuer l'insecte dans l'œuf, c'est-à-dire éliminer les gîtes larvaires, les eaux stagnantes où il se développe comme les gouttières, solution déjà adoptée en France quand il fallait faire face à l'épidémie de chikungunya.
Catherine Dutu, l'actualité française, un homme porteur de 2 armes de poing a été interpellé aujourd'hui dans un hôtel du parc Disneyland en Seine-et-Marne. Il a été repéré lors de son passage au portique de sécurité. Les armes se trouvaient dans une valise. L'homme a été placé en garde à vue. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il était armé pour assurer sa sécurité. Pour le moment, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi de cette affaire. On va terminer ce journal avec Alain Finkielkraut, désormais immortel après avoir été reçu aujourd'hui à l'Académie française. Moment intense pour le philosophe et polémiste, moment d'émotion pour un homme qui cultive la controverse pour faire avancer le débat. Le reportage sous la coupole de Jacqueline Pétrose.
Bien sûr, Alain Finkielkraut se savait attendu, l'exercice n'était pas aisé, mais le philosophe n'a rien éludé. Il a d'abord exprimé toute son émotion, lui, le juif d'origine polonaise, à être reçu sous cette coupole.
L'héritier de ce nom n'en revient pas. Il éprouve en cet instant solennel un sentiment mêlé de stupeur, de joie et de gratitude. S'appeler Finkielkraut et être accueilli parmi vous au son du tambour, c'est à n'y pas croire.
Puis ce fut l'éloge de son prédécesseur, il attirait à lui l'humain et le littéraire chez Félicien Marceau, fustigeant ceux qui aujourd'hui ont la mémoire paresseuse et ne retiennent que ce qui leur permet une posture.
C'est la mémoire devenue doxa, c'est la mémoire moutonnière, c'est la mémoire dogmatique et automatique, des poses avantageuses, c'est la mémoire de l'estrade, c'est la mémoire revue, corrigée, et recraché par le système.
Après de longs applaudissements, Pierre Nora accueille à son tour le philosophe. L'historien n'épargne pas le nouveau venu avec humour.
Il y a toujours en effet chez vous une frontière fragile et poreuse entre la dissidence héroïque et le dérapage plus ou moins contrôlé, entre l'audace de l'indépendance, la liberté de l'esprit et le flirt éternel avec la provocation ou avec la polémique, dont on se demande toujours si vous l'attirez comme la foudre ou si vous la déclenchez comme l'éclair.
Et à ceux qui s'inquiètent de l'atmosphère des futures séances, ici sous la coupole, Pierre Nora a promis à Alain Finkielkraut qu'il allait y trouver une identité heureuse.
Voilà Alain Finkielkraut que vous retrouverez samedi matin sur France Culture pour un nouveau numéro de son émission Réplique et puis à réécouter sur franceculture.fr l'autoportrait d'Alain Finkielkraut au micro de Guillaume Herner. L'hommage de Manuel Valls à Christiane Taubira lors de ses vœux à la presse, le Premier ministre a salué ce matin l'opiniâtreté de son ex-ministre de la Justice, en évoquant notamment son combat en faveur du mariage pour tous. Mais Manuel Valls s'est empressé de justifier le départ de Christiane Taubira. Il a souligné le besoin de cohérence au sein de son équipe gouvernementale. Un mot de la météo demain, amélioration au sud, dégradation au nord-ouest. Une nouvelle perturbation arrivera par les côtes de la Manche. Partout ailleurs, du soleil après les brouillards matinaux. Température maximale toujours très douce, 6 à 13 sur la moitié nord, 13 à 17 au sud.